Bonjour et bienvenue dans Culture Queer, le podcast de la radio Queer Asio dédié aux arts, à la musique et aux expressions culturelles queer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé et Delphine.
Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Avant de commencer cette conversation, quelques mots pour poser le cadre. Vous êtes un couple à la vie comme à la scène et votre histoire a profondément évolué au fil des années. Chloé a traversé une transition de genre, un chemin intime, long, parfois complexe, mais surtout profondément lié à une recherche de vérité et d'apaisement avec elle-même. Et Delphine à ses côtés dans ce parcours, dans les questionnements, les ajustements, les peurs parfois, mais aussi dans l'accompagnement et la reconstruction ensemble. De cette histoire est né quelque chose de très singulier, La Reine Garçon, un projet musical qui n'est pas simplement un groupe, mais aussi une manière de raconter le réel, de le transformer et de le traverser ensemble. Comme si la musique était devenue un espace commun pour continuer à se comprendre, à se redéfinir et à avancer. Ce qui m'a touché dans votre univers, c'est cette esthétique très douce, très organique, presque 70s parfois, quelque part entre Françoise Hardy et Maxime Le Forestier, avec des textes qui disent des choses très profondes, sans jamais forcer le trait. Aujourd'hui, on va parler de tout cela, de ce chemin intime, de ce que cela bouleverse dans une vie, dans un couple, dans une famille, mais aussi, et peut-être surtout, de la manière dont tout cela s'est transformé en création, en musique et en partage avec le public. Chloé et Delphine, merci d'être là. Alors pour commencer, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Vous vous connaissez depuis longtemps, presque 25 ans. Comment est-ce que votre histoire a commencé ?
Elle a commencé de façon assez traditionnelle pour des musiciennes, voilà. Même si à l'époque, effectivement, j'étais un garçon. Voilà, on s'est rencontrés dans une cave, voilà, pour répéter avec un groupe de rock. Voilà, on répétait chez un ami qui avait une batterie et une cave. Voilà, et donc, on a commencé à faire de la musique ensemble. Et puis, au fil du temps, c'est allé un peu plus loin. Et je pense que quelque chose comme quelques mois, une année après, comme on dit, on est sortis ensemble. Voilà. Et puis, ça nous mène jusqu'à aujourd'hui.
À quel moment vous avez compris que votre lien dépassait largement le cadre d'un couple classique pour devenir aussi une aventure artistique ?
Je dirais que ça s'est fait très naturellement, en fait. On s'est jamais vraiment posé la question. On a toujours partagé notre vie intime et notre vie artistique au quotidien. Les choses se sont faites vraiment sans réflexion. Ça s'est fait tout seul.
Oui, ça a été vraiment quoi, deux routes bon parallèles qui, effectivement, jusqu'à récemment, se sont pas vraiment croisées. Et c'était peut-être un peu ça le souci, voilà, jusqu'à ce projet. Puisque c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai entamé mon transition de genre à la fin de l'année 2021. Et à ce moment-là, on a ressenti le besoin, toutes les deux, d'avoir un nouveau bon projet où j'aurais donc une existence féminine. Et à partir de là, effectivement, notre vie et notre projet donc artistique ont été liés de façon très indissociable.
Alors Chloé, dans le documentaire Puissance 2, on sent un moment de bascule très fort, presque une impasse personnelle. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce moment où tout semblait se fermer, où quelque chose ne tenait plus ?
Oui, on sait qu'il y a deux moments dans la vie assez forts où les gens transitionnent souvent. C'est soit au sortir ou pendant leur adolescence, ou alors c'est en deuxième phase. Et moi, c'est dans cette catégorie-là, voilà, c'est-à-dire qu'on a mené notre vie d'adulte à deux, on a eu deux beaux enfants, voilà.
On a toujours,
comme notre fils a 18 ans quoi, maintenant et notre fille en a 13. Et puis, à un moment, il y a une dizaine d'années, moi, je suis arrivé au fond d'une impasse. Je pense que j'avais à ce moment-là tous les éléments pour comprendre qui j'étais, mais si on peut prendre l'analogie d'un dessin avec des points qu'on relie, voilà, pour les enfants, c'est-à-dire qu'on a que les points, et puis quand on les relie, on fait « Ah, c'est un mouton !» Voilà. Et moi, c'était un peu ça, quoi. J'avais tous les points sur une feuille, mais je n'avais pas su ou voulu les relier. Donc, j'avais des éléments que je pensais être annexes dans ma vie, c'est-à-dire que quand j'étais seul, depuis mon enfance, J'aimais bien mettre une robe, ou voilà, mais seulement quand j'étais seul. Donc c'était en dehors de toute représentation sociale. Et puis, j'avais à ce moment-là, donc il y a une dizaine d'années que maintenant, d'autres problèmes qui me semblaient être les plus importants. C'est-à-dire que j'étais extrêmement frustré, sans trop connaître la raison de cette frustration. Donc j'étais violente avec moi-même et avec mon entourage. J'avais un problème d'alcool, ça va avec. Surtout quand vous faites de la musique, c'est... Voilà. Bonjour, on vous offre un verre, vous balancez, on vous offre un deuxième verre. Ah, il fait chaud, je vais prendre un troisième verre. Puis vous rentrez à la maison... Pourquoi pas en prendre un quatrième, et puis voilà, vous prenez un apéritif, du vin, un digestif, et à la fin, vous êtes couché par terre dans votre séjour, et voilà. Et du coup, je ne dormais plus. Et donc, à un moment, moi, je pensais que c'était un problème de couple, parce qu'à ce moment-là, on était ensemble depuis longtemps, et donc, autour de nous, il y a beaucoup de couples qui se sont défaits au fil du temps, voilà, donc c'est des choses qui se passent. Et puis c'est toi qui a un peu comme toujours qui a dit bon, ça suffit, va voir un médecin, voilà,
va voir un psychologue. Je t'ai demandé d'aller voir un psychologue. Oui, une psychologue.
J'ai triché une nouvelle fois. Je suis allé voir une sexologue. Je me suis trompé dans les pages jaunes. J'ai trouvé inconsciemment, je me suis dit déjà je vais aller voir une femme, ce qui voulait bien dire quelque chose. Et il y en avait une qui avait sa photo, et c'était une jeune fille avec les secours qui souriait et était affiliée à une asso LGBT. Je me suis dit, ça colle, c'est parfait. Je suis allé la voir, et au bout de 5 minutes, en lui racontant mes rêves, fantasmes, elle m'a dit, mais vous avez des rêves et bon, des fantasmes de femmes, vous avez une... Ce que vous me racontez de votre intérieur, de votre vie intérieure, c'est complètement bon féminin. Est-ce que vous savez ce que c'est la dysphorie de genre? Bien sûr, je savais ce que c'était parce que j'avais toute ma vie été fasciné par des individualités qui se jouaient des frontières du genre et de la minorité. Il y en a eu plein dans le monde de la musique et des arts. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai pleuré un bon coup. J'ai payé, voilà. Et puis, ça m'a fait un bien fou parce qu'en fait, quand on réalise qui on est, que quelqu'un vous l'envoie, vous le recevez. Et donc, c'est l'apparition un peu d'une porte, quoi. Dans un mur qu'il y a devant vous, il y a une porte. Donc, à partir de là, c'était donc il y a 8-9 ans, j'ai arrêté de me détruire et de détruire mon entourage. C'est-à-dire, je me suis dit, il est sûr qu'un jour, je transitionnerai. Mais j'ai des enfants, j'ai une compagne, etc. Donc, c'est compliqué. Voilà. Donc, à partir de là, je t'ai écrit un mail.
Justement, oui. C'est ce que...
Pardon.
Delphine... Donc, Chloé vous a écrit un mail pour vous l'annoncer. Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là, quand vous ouvrez le mail?
Alors, bizarrement, j'ai pas de souvenirs précis, en fait. Mon cerveau l'a un peu mis de côté, ce mail. Je me souviens qu'en tout cas, après la consultation, quand tu es rentrée, je t'ai demandé alors, comment ça s'est passé? Et tu m'as dit, bien. Je vais t'écrire, quoi. Je vais t'en parler par écrit. Et donc je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Donc, et ça a pris peut-être quelques jours quand même avant que je reçoive ce mail, je pense. Mais non, en fait ça m'a à la fois surprise et pas surprise, bizarrement. Je connaissais pas du tout la transidentité, enfin je connaissais très peu, quoi. J'avais vu quelques films, j'avais vu le film de Xavier Dolan, Laurence Anyways, mais c'était assez loin de moi, quoi. Je me rendais pas tellement compte de la proximité que ça pouvait avoir. Et voilà, qu'est-ce que j'ai... J'ai pas réagi tout de suite. Je me suis dit, faut que je me renseigne, faut que j'y réfléchisse. Je me suis, moi, dit, en tout cas, je n'en parle à personne. Je n'en parle ni à des amis. Je ne veux pas que qui que ce soit puisse m'influencer dans mon parcours de réflexion. Donc, je me suis dit, j'en parle à personne. Donc, j'en ai vraiment parlé à personne. Et je crois que j'en ai parlé à une personne, c'était ma gynécologue, qui m'a dit « vous devriez aller voir une psychologue ». Je me suis dit « bon, allez, ça va peut-être aller, on va s'en passer, je vais déjà réfléchir ». Et donc j'ai cherché un peu sur Internet aussi, et j'ai trouvé très peu de témoignages en fait. Mmh. Il y a des témoignages de femmes et d'hommes trans, mais pas beaucoup d'accompagnants, d'entourage proche, de famille, et ni d'enfants d'ailleurs. Et donc voilà, bon, moi j'ai mis mon petit parcours de réflexion, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, j'y vais quoi. Parce que j'avais envie que ça continue, j'avais envie de rester avec Chloé, et je me suis dit, peu importe dans quoi je m'engage, j'y vais, et j'ai jamais regretté d'y être allée.
Alors il y a aussi une dimension très forte autour de la famille. Comment avez-vous abordé tout ceci avec les enfants ?
Alors, on a eu peur, en fait. Je pense qu'on a été victime de notre éducation, qui nous disait que c'était quelque chose de... Que la frontière entre les genres était imperméable, et donc on franchissait une sorte de tabou. Donc, on a mis, quoi, quelques mois. Et on a parlé que quand j'ai entamé vraiment mon transition en fait, bon médical, donc je pense quelque chose comme 2 bonnes années après ce rendez-vous dont on parlait, voilà, ça a pris un moment de réflexion. Et on a eu tort, je pense, parce que nos enfants, voilà, bon, pour autant qu'on puisse le dire aujourd'hui, 5 ans après, l'ont bien pris. Voilà, puisque il faut se souvenir que ce que des enfants veulent, c'est surtout quoi, la sécurité de leur famille et l'amour de leurs parents. Voilà. Et si notre couple avait explosé à ce moment-là, comme c'était inéluctable, si je n'avais pas entamé quoi, cette transition, je pense, ben, il ne serait pas plus avancé. Voilà. Donc, après, bon, on a pris un risque qui était très, en fait, assez minime dans notre cas, parce que je sais qu'il y a énormément de couples trans qui explosent, enfin, au moment où une des deux voilà, personnes en fait, bon, transitionne. Et nous, le fait est que je savais que notre couple il fonctionnait à l'envers depuis le début. C'est-à-dire qu'on avait une double vie. Dans l'intimité, c'était clairement toi qui dirigeais, mais je dis ça dans un sens bon, positif, quoi. Et évidemment, pour rentrer dans les critères d'un regard quoi, social, hétéronormé, notre relation s'inversait quand on était dans notre sphère publique. Et donc c'était très malsain. Quoi. Et donc ça a longtemps été aussi quelque chose qui nous a bloqué artistiquement, parce qu'en fait, dans nos projets artistiques, on gardait le regard truqué correspondant à la norme hétéronormée. Et en fait, c'était une grosse erreur artistique. mais bon, c'est assez voilà, compliqué. Donc j'ai pris un risque assez réduit en me disant, finalement, en suivant en fait, quoi, ce parcours, non seulement je deviens moi, mais notre couple retrouve une relation finalement qui est plus vraie. Quoi. Voilà. C'était ce que j'ai ressenti. Bien sûr, j'ai pas... C'était pas aussi clair que ça, mais c'était ce que je sentais. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de couples qui se séparent. Le dernier qu'on ait vu, c'était un jeune homme gay qui nous a expliqué que son copain était devenu une femme trans et que du coup, il l'avait quitté parce qu'il voulait surtout pas avoir un couple hétéro. Bon, ça m'a un peu fait rire, je me suis dit. C'est alors qu'il y a plein de gens qui voudraient se fondre dans la masse. Lui, c'était précisément quoi, quelqu'un de très jeune. Et c'est ça, je trouve ça chouette aujourd'hui, c'est qu'il y a une génération de gens qui arrivent, qui sont queer, voilà, comme on dit, au sens large, et qui sont fiers de l'être. Voilà. Et donc ça, c'est un formidable pas vers l'avant, c'est-à-dire ça va faciliter les voilà mon coming in c'est-à-dire qu'on va plus avoir voilà ou ressentir le besoin de se cacher dans le placard pendant des fois des décennies et voilà c'est mais là bon c'est un cas où ça m'a un peu fait rire je me suis dit, mon Dieu tu refuses d'avoir un couple hétéro donc tu quittes ta Ok.
Alors, le projet artistique La Reine Garçon semble être un vrai tournant. À quel moment vous vous dites « Ok, on va pas séparer la vie de la musique, on va faire quelque chose ensemble sur cette thématique ?»
Je crois que c'est moi qui en ai parlé la première, parce qu'on avait toujours un projet artistique avant, en fait, qui existait toujours, mais on faisait plus grand-chose à ce moment-là. Et moi, j'ai dit à Chloé, je pense que j'ai besoin, moi, que ce projet artistique évolue et qu'il me suive aussi dans notre cheminement et dans ta transition et dans cette aventure. Parce que je trouvais ça plutôt excitant, je trouvais ça nouveau et je sentais que ça nous ferait du bien dans l'accompagnement. Moi, ça m'a vraiment fait du bien dans l'accompagnement dans ce cheminement. C'est vrai que les textes que tu écris, qui parlent de transition, même si c'est imagé et qu'on ne comprend pas forcément, moi, ça, je le comprends, je décrypte un peu des choses et je trouve que c'est beau et que c'est une clé de compréhension qui est vachement importante. Donc je trouvais que c'était bien de pouvoir utiliser ce projet pour ça aussi.
Oui, moi, je ne pouvais pas rater cette opportunité de monter sur scène en mettant une robe. Voilà. Donc je l'ai saisie au vol. Et on a commencé à l'été 2021 les premiers concerts. Ça n'a pas été facile pour moi au début parce que je faisais des mauvais choix à tous les niveaux, je pense. Voilà. Voilà. Alors après, peut-être qu'on s'est un peu trop appuyé sur notre projet pour faire part du changement à nos proches qui n'ont pas trop compris. C'est-à-dire qu'on a fait un disque à ce moment-là où il y avait une pochette avec un visage peint qui était sans genre quoi, voilà, précis. Et à l'intérieur, quoi, seulement, il y avait des photos de deux femmes. Quoi, voilà. Et donc, je l'ai donné à mes amis, on l'a donné à nos amis en disant bon, « Voilà, c'est notre nouveau projet. » En disant ils vont forcément comprendre. Bah non, ils n'ont rien compris. Ils ont pensé que c'était... Et je dis « ils ». C'était à ce moment-là, notre agenda était peut-être en majorité masculin. Voilà, il s'est un peu inversé depuis, sans qu'on sache trop pourquoi. Enfin, ça s'est fait sans qu'on le veuille, quoi. Et nos proches ont mal compris. Voilà, c'était pas très astucieux. Ils se sont dit, c'est du théâtre. Les choses vont revenir à la normale très vite. Et ça n'a pas été le cas. Voilà.
Alors, dans vos morceaux, il y a des images très fortes. Je n'existe pas. Différentes. J'ai vu des chevaux sous la mer. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces images ?
Ça, c'est une bonne question. On tente de pas trop, nous, de trouver de recettes fixes. Donc, c'est des choses un peu différentes à la fois. Voilà. Bon, je n'existe pas, c'est venu avec la musique très, très vite. C'est-à-dire une phrase clé qui est liée à une séquence, quoi, d'accord. Et j'ai pas d'explication, honnêtement. Je pense que c'est une recherche. C'est le moment où on se dit il faut que je change parce que pour l'instant je n'existe pas, quoi, tant que je ne transitionne pas. Voilà. Différente, c'est un peu une chanson bon, militante, on n'en a pas beaucoup, mais celle-ci, elle est assez claire. Ça, c'est un appel à être fière d'être une femme trans, en fait, voilà, spécifiquement, à dire bah, je suis pas une fille comme les autres filles, mais je suis une fille trans et je suis fière d'être une fille trans. C'est vraiment très simple. Et j'ai vu des chevaux quoi, sous la mer, c'est un rêve que tu as eu. J'ai tout simplement recopié ce que tu me disais sur un carnet, ça, une forme musicale, voilà, c'est beaucoup plus onirique.
Alors aujourd'hui, La Reine Garçon, c'est à la fois des chansons, des concerts, mais aussi une vraie vie de projet qui continue d'évoluer. Chloé, Delphine, qu'est-ce que vous préparez en ce moment ?
Pour l'instant, on est en train de monter un nouveau spectacle avec une interaction de musique et de vidéo qu'on va faire avec la... On a fait ce documentaire dont tu parlais tout à l'heure, qui est un documentaire qui raconte un peu notre parcours, qui s'appelle Puissance 2 et qui retrace un peu qui associe notre vie de famille, de couple et artistique en interrogeant.
Ça parle de notre deuxième disque et donc de notre changement qui a eu lieu à peu près en même temps.
Donc il a été réalisé par Camille Dussolier, une jeune artiste qu'on adore. Et donc on avait envie de travailler avec elle. Donc on est en train de monter un projet de concert vidéo, interactif, mais mélangé en tout cas. Donc ça, c'est dans les mois qui viennent. On commence à monter ça bientôt, au mois de juillet.
Voilà, mais donc avec un peu, les retours de ce qu'on a pu faire quoi, comme concert sur les deux disques donc, qu'on a fait. Le premier donc, dont je parlais bon, tout à l'heure, au début de ce parcours, en fin 2021. Et puis le deuxième qu'on a enregistré au Québec, parce que la réalisatrice du disque travaillait avec un label bon, québécois. Donc on a aussi bon, commencé une relation très... très amoureuse avec ce pays où les gens sont très ouverts sur le monde queer, voilà. Et donc on y allait pour enregistrer, on y retournait en vacances. Le mois dernier, on y était faire une tournée. Et donc au fil du temps, on venait du milieu musical et les premiers retours sur le projet, ils nous ont déroutés. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi bien sur la musique, ça. Bon, c'est logique, on vient, on joue quoi de la musique, puis les gens viennent, disent j'ai bien aimé, la deuxième chanson était chouette. Mais assez souvent sur notre parcours de vie, avec des gens qui aussi nous racontaient leur propre vie, quoi. Et donc ça nous a un peu intrigués au début, c'est-à-dire voilà, ça m'a plu, je suis de maman, ma fille vit avec une fille, bon, ok, voilà. Et qui devient un mec, ok, bon, voilà, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait de ça? Enfin, je veux dire, pour le coup, nous, on n'est pas formés, on n'est pas une asso, on n'est pas bon psychologue. Bon. Et donc, au fil du temps, on a ressenti le besoin d'accompagner notre deuxième disque d'un film qui explique aussi quoi, notre parcours. Et puis, on a eu des opportunités de jouer dans un milieu plus engagé. Qui soit queer, bon, féministe, mais où notre projet a un vrai sens et une véritable utilité. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on propose musicalement, ça permet aux gens qui viennent aussi de reconnaître des petits éléments de leur parcours à eux et aussi d'en discuter et de faire part de leur propre expérience. Donc, pour l'instant, c'est voilà. Je sais pas quoi combien de temps on pourra faire ça parce que c'est assez. On est aussi quoi des fois dans des discussions qui sont un peu violentes. Ça dépend de l'environnement. C'est-à-dire voilà, on a toutes sortes. Des fois, on a voilà des questions très intrusives et très violentes. C'est intéressant d'avoir un sens presque en fait social sur un projet qui à la base est très artistique et dont on pourrait se dire c'est très voilà décalé de la réalité, mais en fait pas du tout, voilà. Et je pense que c'est le film qui a été le déclic, voilà, parce que c'est un film où nos enfants parlent et l'ensemble donne sans aucun trucage, donne quand même une vision positive d'une famille trans lesbienne, voilà. Ça provoque des réactions, voilà. Elles peuvent être bonnes ou moins, voilà. Il y a des gens qui sont contre notre but à la base, c'était vraiment essayer de faire comprendre aux gens qui a priori seraient contre qu'il n'y a pas de raison de l'être. Voilà. Ça n'a pas marché aussi bien qu'on l'espérait, puis il faut le dire. C'est-à-dire qu'on en est encore à un stade en France où il y a très largement une incompréhension de toutes ces questions. C'est-à-dire qu'on est face à vraiment quoi, des questions qui... son niveau zéro dans, voilà, pour des gens c'est-à-dire voilà, mais pourquoi vous êtes une femme trans, vous vivez avec une femme, donc quel est le sens de votre transition, si vous sortiez avec un mec, est-ce que si vous lui disiez pas que vous êtes trans, est-ce que cette personne aurait le droit de porter plainte à la police? Est-ce que vous avez fait des opérations de chirurgie esthétique? Comment ça se passe au lit?
Et pour le coup, au Québec, ils sont plus avancés qu'en France. Enfin,
je confirme qu'au Québec, ils sont très très avancés pour la défense des droits des queers, voilà. Effectivement.
De droits des gens, en fait, je pense, en général.
Après, il y a quelque chose qui est assez drôle, c'est qu'à Montréal, on est à une heure des États-Unis, et alors, ça se passe pas bien aux États-Unis, ça on le sait bien, spécialement pour les trans qui ont été pris comme cible, on sait pas trop pourquoi. à une heure de route, voilà, pour Montréal, vous allez au WC dans les musées, etc. Donc, sur les portes des WC, il y a marqué « Allez du côté où vous vous sentez bien ». Donc ça, c'est assez inédit, mais ça en dit assez long.
Encore du travail à faire en France. Alors Chloé, vous disiez que vous étiez surprise que des gens viennent vous voir après les concerts. Est-ce que ça change de votre manière aujourd'hui de monter sur scène ?
Oui, je pense. Oui, parce que ça donne un sens, déjà, je veux dire, à l'ensemble. C'est-à-dire que... Et puis c'est un sens qui, je pense, était là dans ce qu'on a pu faire, je veux dire, bon, comme musique avant, mais il était voilé. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des voiles de tulle devant, voilà, quoi. On voit pas ce qu'il y a au fond, c'est très flou. Et là, quoi, les voiles sont en train de se lever, donc ça ouvre plein de possibilités, donc artistiques. On peut dire ce qu'on souhaite dire, voilà, mais avec des outils donc artistiques, en essayant de faire de belles choses, voilà, parce qu'on ce qu'on propose, c'est avant tout, on espère des belles chansons, voilà, et pas on n'est pas dans le slogan, je veux dire, à la base, même si le sens du slogan est là, dans la forme, on évite un peu la forme, quoi, du slogan. On est sur une musique qui est assez douce et qui est quelque chose qui s'écoute dans son intimité, quoi. C'est pas un truc à crier sur une barricade dans les rues, voilà. Mais par contre, le sens est là, voilà. Et donc, c'est assez étonnant de voir que le projet arrive à plaire à des jeunes gens qui sont très militants et qui ont envie de tout casser, quoi. Et ils se retrouvent quand même dans notre cocon très doux. Quand même, comme quoi, voilà, il n'y a pas de, on peut aussi bien faire, voilà, quoi, des manifs de façon assez quoi tendue, et en même temps être ouverte à des formes d'art, voilà, où on prône plutôt la douceur et le partage, voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle pour demain, parce qu'il va falloir trouver une solution à tous ces clivages.
Alors, pour terminer, j'aimerais vous demander une chose simple. Pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'elles soient concernées directement ou indirectement par la transidentité ou par des questionnements sur leur identité, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
En fait, c'est marrant qu'on a été manger dans un resto chinois à Montréal, et à la fin, il y a une petite pâtisserie qu'on ouvre, et on a une petite phrase qui nous correspond plus ou moins. Et on a eu chacune une phrase qui nous correspondait assez. Toi, tu as eu la phrase « Sois toi-même ». Et moi, j'ai eu la phrase... les gens vous aiment parce que non, pour la bienveillance que vous pouvez porter aux autres. Et en fait, on s'est dit, c'est exactement ça. En fait, c'est drôle. Quoi. C'est, on aurait changé des pâtisseries, ça aurait pas marché de la même façon. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est ce que tu dis toi, c'est soyez vous-même. Et moi, j'ai envie de leur dire, aimez-vous tel que vous êtes et aimez les autres tels qu'ils sont, tels qu'ils vivent et qu'ils ont envie de vivre sans jugement.
Et alors, et peut-être aussi à destination des proches, des parents, des amis, quel rôle joue le soutien dans ces parcours-là ?
Il est, je pense, très important pour les ados. Donc, nous, c'est vrai que dans le sens où on a commencé le voyage nettement plus tard, on s'est un peu, passé du soutien de nos proches, qui d'ailleurs ne nous ont pas vraiment soutenus. Mais je dirais qu'à notre âge, c'est pas très grave, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être validé. Voilà. C'est un peu le problème quand on est trans, c'est qu'on est tout le temps en train de remettre en jeu la validité de notre existence, partout. C'est-à-dire, et les gens se permettent de la valider ou de l'invalider à tout bout de champ. Et c'est quand même assez fatigant. Voilà, c'est comme si vous remettiez tout toujours en jeu, un peu en fait à la roulette, c'est-à-dire c'est tout le temps, vous rejouez tout et souvent vous perdez, quoi, et c'est compliqué, voilà. Mais par contre, c'est une vraie difficulté pour les ados, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte, et on a autour de nous quelques ados trans qui sont pas nos enfants d'ailleurs, ce qui prouve que ça n'est pas contagieux du tout, voilà. Ils sont souvent en manque de soutien manque de soutien sur même des phases où on n'est pas en transition médicale, on est juste en questionnement. On veut changer de prénom, on met d'autres vêtements, etc. Et ben même ça, c'est très compliqué pour des ados. C'est-à-dire que tout de suite, les parents vont ramener à une normalité hétéronormée, c'est-à-dire non, tu ne dois pas mettre ça, non, on ne peut pas t'appeler comme si, non, c'est pas possible de changer de prénom à l'école, alors que ça l'est tout à fait. C'est très simple. Et c'est très important pour la santé des enfants et des ados concernés. Et ça, c'est un manque total de discernement des parents qui sont très mal informés sur ces questions-là. Voilà. Mais ça, c'est un vrai boulot pour les assos qui sont sur le terrain, je pense. Et pour l'État, parce que ça fait partie du rôle de l'État. Voilà. Puisqu'il y a une école, il faut aussi qu'on sensibilise les gens à ce moment-là de leur vie, avant qu'il soit trop tard à toutes ces questions-là, qu'ils les intègrent et qu'ils soient pas, qu'ils partent pas après le bac avec directement dans leur hôte un kilo de lesbophobie, un kilo d'homophobie, un kilo de transphobie, un peu de racisme. Il faut arriver à traiter ça à l'école, à mon sens,
Delphine, quelque chose à dire ?
Non, mais je me disais que c'est pas si simple que ce soit. L'école n'a pas forcément le pouvoir de tout résoudre non plus, je pense. Mais le rôle des parents est important. Nous, on a parfois des parents qui viennent à nos concerts pour justement échanger, voir un peu qu'est-ce qu'on a, comment ça se passe. Et souvent, ça se passe bien. Ils sont plutôt rassurés de nous voir, en tout cas, je pense. Donc, c'est une belle chose pour nous.
Ils se rendent compte qu'on n'est pas dans l'image que donnaient les médias, spécialement des femmes trans, parce qu'il n'y avait à l'époque pas de visibilité réelle pour les mecs trans, mais les femmes trans dans les années 90, c'était généralement, elles étaient sidaïques, travailleuses du sexe à un moment ou un autre de leur vie, ce qui reflétait le fait que si vous étiez trans, vous n'aviez pas d'emploi, si ce n'était pas de leur faute. Voilà. Et, mais bref, elles étaient malades, drogués, sidaïques, on travaillait du sexe, donc le message c'était bien fait. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, vous aviez le droit à 30 secondes d'antenne dans les mois précédant votre décès, et c'était un peu tout ce qu'on voyait des femmes trans. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre que des parents de cette génération-là soient inquiets quand leurs enfants leur disent qu'ils sont trans. Parce que
eh bien, merci Floé, merci Delphine. Ce que vous racontez ici, ce n'est pas seulement une histoire de musique ou de parcours de vie, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus essentiel, le courage de rester en mouvement vers soi-même, même quand c'est pas confortable, même quand ça n'est pas immédiat, même quand ça demande du temps. Il y a dans votre histoire quelque chose qui ne cherche pas à convaincre, qui ne cherche pas à être exemplaire, mais qui existe, tout simplement. Et c'est peut-être ça qui touche. Parce qu'au fond, ce que beaucoup de personnes cherchent, ce n'est pas des réponses toutes faites. C'est la possibilité de se dire « je peux avancer moi aussi à ma manière ». On a tous, à un moment ou à un autre, des zones floues, des choses qu'on n'arrive pas encore à nommer, des endroits où on tâtonne. Et ce que vous montrez ici, c'est que ça n'empêche pas d'aimer, de créer, de construire, de continuer à vivre. Alors merci pour la musique, bien sûr. Mais surtout merci pour ce que vous ouvrez, sans forcément le chercher, un espace où les choses peuvent être dites, ressenties et peut-être apaisées. Et si on devait garder une chose de cet échange, ce serait peut-être celle-ci. On a le droit de devenir soi, à son rythme et avec les gens qu'on aime à côté. Encore merci à toutes les deux.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Culture Queer. Si cet épisode vous a ému ou inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt sur la radio Queerazio pour un prochain épisode.